Votre invité, Patricia Martin, l'auteur, metteur en scène, Joël Pommerat. La pièce revient, Ça ira, fin de Louis. Cette pièce sera reprise au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris du 13 avril au 2 juin. Et le Louis en question, c'est bien sûr Louis XVI. Vous plantez le décor?
Oui, ça se passe entre 1787 et 1791, printemps 91, hein, juste avant que le roi ne fuit à Varennes. Les caisses de l'État sont vides.
Pendant la Constituante.
Exactement. Les poches des citoyens, plutôt des sujets, le sont aussi. Il faut lever de nouveaux impôts. Il y aura des états généraux, des députés du tiers-état qui seront élus. La révolution est en marche. Bonjour Joël Pommerat.
Bonjour.
Cette histoire de la France que je viens de raconter, ce décor qu'on vient de planter, tout le monde la connaît. Comment est-ce que vous arrivez dans votre pièce à créer la surprise ?
Il faut déjouer un petit peu des attentes, justement. Vous dites qu'il y a beaucoup de connaissances à partir de ces événements. Bien sûr, enfin, il y a aussi beaucoup de choses, si je peux me permettre de dire ça, qu'on croit connaître, comme toujours avec l'histoire... l'idée, c'est pas de faire l'intéressant en donnant des leçons, bien sûr, d'histoire, mais c'est de faire en sorte que le spectateur se sente un petit peu perdu tout de suite.
C'est-à-dire de faire en sorte qu'il découvre les événements. À l'époque, par exemple, Robespierre et Lafayette n'étaient pas connus comme ils l'ont été après.
Il y a effectivement un des partis pris de cette écriture, c'est de pas nommer les personnages historiques que tout le monde connaît. C'est finalement de flouter un peu les choses pour qu'on ait justement pas ces repères qui permettent de se dire oui, lui, j'ai entendu parler de lui, il est comme ça, etc. Enfin, que déjà on fasse l'histoire avant qu'elle se déroule sous nos yeux, en quelque sorte.
Évidemment, vous êtes très attentif, vous avez écrit le texte, hein, vous êtes auteur, vous êtes évidemment très attentif aussi à la scénographie. Il y a une fusion scène-salle ?
Oui, moi, ce qui m'intéressait presque le plus, c'était de reconstituer, d'essayer de chercher ces assemblées, que ce soit les assemblées officielles, cette nouvelle assemblée nationale, mais aussi toutes ces assemblées qu'on dit populaires, voire même les aristocrates se rassemblaient, c'est-à-dire tout ce qui était l'action du débat, du débat d'idées, pour ça. Il fallait des gens qui parlent, mais il faut aussi des gens qui écoutent, en quelque sorte. Donc, comment reconstituer sur une scène la masse d'une assemblée, le nombre? Et donc, moi, je me suis servi tout simplement de la salle des spectateurs pour reconstruire les gradins des assemblées. Donc ça parle aussi, les personnages parlent depuis leur place d'écouteurs, si je peux dire. Ouais. Il y a des choses qui se passent évidemment sur la tribune, et tout ça est mélangé.
Le rapport à la société va complètement changer, le rapport des uns avec les autres. C'est vraiment là, on voit la genèse d'une organisation démocratique se dessiner.
Une tentative, effectivement. Enfin, bon, voilà, c'est une forme de table rase assez radicale qui s'est pas faite en un jour, mais qui se fait quand même assez rapidement d'un système centenaire, millénaire, je sais pas comment on peut dire, d'autocratie. Et la réflexion sur un système politique qui soit... le plus égalitaire possible, voire démocratique, même si ce terme n'était pas employé
évidemment,
à l'époque.
Évidemment, il est anachronique. Vous ne prenez pas parti, Joël Pommerat, c'est-à-dire, ou alors vous prenez des partis successifs. C'est-à-dire que pour cerner les révolutionnaires, il est évidemment important de savoir à qui ils s'opposent. Ils s'opposent notamment au roi. Ce roi, vous l'envisagez d'une manière particulière.
Je prends pas parti. Alors, je prends pas parti. Oui, je prends pas parti, mais c'est, enfin, je.
Mais il n'y a pas de parti pris, c'est ça.
J'ai un point de vue sur ces histoires. Je réfléchis, je pense un petit peu. Enfin, j'ai été
un petit peu
critiqué. Non, mais c'est pas en réponse directe à ce que vous dites, mais peut-être je vais faire attention à cette notion de je prends pas parti, parce que des fois c'est confondu un peu avec l'idée de relativité absolue ou de tiédeur ou de centrisme. Tout le monde a le droit de penser comme il veut, mais oui. je suis plutôt attentif avec ce travail à faire en sorte que même ceux, on va dire, qui pensent pas comme moi, ou qui ont des avis, on va dire, assez contestables selon moi, ne soient pas représentés de manière caricaturale. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui disent le plus de choses que je trouve, voire dans certains cas quasiment détestables.
Oui, avec beaucoup de violence. Hein. Il y a une conflictualité quand même.
Que ces gens-là ne soient pas méprisés intellectuellement, ouais. En tout cas. Parce qu'on peut dire des horreurs, et dire sur un plan politique, des saloperies, en étant finalement cultivé. C'est ça qui est terrible. Mmh. Voilà. L'autre qui ne pense pas comme nous n'est pas forcément bête. Il peut avoir une grande aisance sur le plan intellectuel. C'est ça qui peut être redoutable d'ailleurs.
C'est impossible, évidemment, aujourd'hui, même si vous avez écrit la pièce il y a plusieurs années, mais c'est impossible aujourd'hui de ne pas penser aux gilets jaunes, non ?
Bah, c'est un mouvement de contestation.
Alors, prenons garde au rapprochement trop rapide aux amalgames.
Hein. Je vais vous le dire.
Voilà. Non, mais il y a quand même des choses en commun ?
Des gens qui descendent dans la rue, des gens qui se rassemblent, des gens qui débattent, des gens qui veulent réfléchir à une nouvelle organisation politique.
Mais bon. Et quand on dit les gens, c'est plutôt parce que les doléances, elles sont plutôt dans les campagnes que dans les grandes villes, ou Paris, par exemple, pendant la Révolution. C'est un petit peu aussi ça.
Bah, disons qu'à cette époque-là, il y a plus de campagnes que de villes, oui, et Paris, déjà, c'est tout petit, et puis bah, voilà, c'est 90% de la population qui est à la campagne. Mais
il y a aussi une critique des puissants, voire même peut-être d'une certaine corruption politique.
Il y a une critique du pouvoir, il y a une critique des pouvoirs, parce que voilà, c'est dans cette période-là, de manière différente qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de pouvoir en même temps, et il y a une critique évidemment d'une appropriation des pouvoirs, des richesses qui est faite à tous les niveaux. Pas simple. Le roi est contesté, mais finalement. Il est aussi c'est le système. Enfin, le grand argument des opposants, c'est le despotisme ministériel, c'est-à-dire on critique les gens autour du roi, ses conseillers, on critique une forme de pouvoir qui leur a été réservé, mais finalement l'aspect monarchique au départ n'est pas du tout mis en question. Il y a un effet d'emballement. Qui produit cette presque accident de l'histoire qu'on fait chuter le roi, alors qu'au départ, les révolutionnaires du départ sont profondément des gens attachés à la monarchie, à la personne du roi.
Cette pièce, Joël Pommerat, elle a été jouée, je crois, 200 fois à guichet fermé. C'est connu un énorme succès, 3 Molières. Elle a jusqu'à présent été jouée dans des théâtres publics. Là, vous allez jouer au théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 13 avril prochain, à peu près pour 60 représentations. C'est un théâtre privé, vous prenez des risques ?
Je prends des risques, oui. Si les salles sont à moitié pleines, je serais
Non, elles seront complètement pleines d'ailleurs.
Je serais un peu triste.
Il faut inciter le public à aller voir. C'est une pièce formidable.
Oui, merci. C'est pas lui qui va le dire, mais bon, c'est une pièce formidable. On le lit, on l'a vu, et c'est une pièce formidable. Merci. Joël Pommerat, ça ira donc fin de Louis XVI à partir du 13 avril jusqu'au 2 juin au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Et bonne
merci
journée.
Merci à vous.